Si vous voulez bien, il est temps de commencer. Alors nous inaugurons cette année une nouvelle formule du séminaire, enfin un petit renouvellement, puisque nous avons prévu qu'il y ait 3 contributions par soirée. Évidemment, ça implique de la part des participants une petite discipline, puisqu'il faudrait évidemment, on avait dit un quart d'heure chacun, disons qu'ils ne doivent pas excéder 20 minutes. Je me parle à moi-même, évidemment. Et donc, on va essayer de respecter ce temps pour qu'il y ait quand même un temps, 3 fois 20, ça fait une heure, hein, qu'on ait quand même un temps de discussion. Alors, je commence tout de suite. Je vais donc commenter une phrase qui a été écrite par Lacan. Elle est dans un séminaire parlé. Mais elle a été écrite, pas seulement parlée, ce qui a son importance. Il dit, je vous la rappelle, « J'écrirai la phrase suivante, elle est très connue cette phrase, hein, la jouissance de l'autre, la jouissance de l'autre avec un grand A, du corps de l'autre qui le symbolise, n'est pas le signe de l'amour. » Eh bien, je crois que cette phrase contient 2 thèses et qui en appelle une 3e. Je me souviens que, quand elle a été prononcée, elle a fait grand effet sur l'auditoire. Pourquoi ? Si on retient la thèse majeure, la jouissance n'est pas le signe de l'amour, au fond, ce n'est pas une nouvelle. Et c'est même un vieux problème du monde en général et du monde analytique en particulier. Qui ne sait que la jouissance n'est pas le signe de l'amour ? Qu'on peut jouir sans aimer. C'est notoire pour les hommes et ce n'est pas moins vrai pour les femmes. En outre, aimer ne favorise que rarement la jouissance. C'est pourquoi d'ailleurs, quand amour et jouissance vont de pair, on en fait tout un plat. On parle de la vraie amour, chère langue française. C'est Freud qui, le premier, a souligné combien l'amour était un obstacle à la jouissance en raison du respect qu'il comporte pour la femme aimée, lequel freine le libre usage de son corps, selon Freud. Il le disait pour les hommes, mais c'est très assuré pour les femmes, qui, plus souvent qu'on ne le dit, ne jouissent pas avec l'homme aimé, plutôt parfois avec d'autres qu'elles exècrent. Donc, tenons pour acquis que l'amour n'est pas la cause de la jouissance. C'est une première thèse. S'il l'était, la jouissance serait signe de l'amour. La question est donc, d'où vient la réponse de jouissance ? Question que Lacan pose explicitement dans cette page. Alors je précise d'abord, de quelle jouissance Lacan parle-t-il ? Pas n'importe laquelle, c'est celle de l'acte sexuel, celle qui se prend au corps à corps sexuel, comme il l'indique en disant qu'il nous prend au lit. Le lit est en effet le lieu classique pour ce type d'activité. Oui, classique, pas plus. On ne parle donc pas simplement de la jouissance pulsionnelle. Parce que la jouissance pulsionnelle, grâce à sa dérive dans le déplacement métonymique, se prend le plus souvent hors du lit. Dans toutes les entreprises de l'ambition, dans les plaisirs de la littérature, des arts, disons dans toutes les œuvres de la culture et toutes les formes dites de la sublimation. Alors celle qui se prend au lit fait problème. C'est un problème clinique à cause de ce que je peux appeler ses caprices à cette jouissance. Car on ne parvient pas à dominer sa cause, avec tous les phénomènes permanents ou épisodiques d'impuissance et de frigidité qu'on connaît. Freud a tenté d'en cerner les causes, il n'y est pas parvenu, il faut bien le dire. Et ce fut un grand débat dans la psychanalyse que de savoir, vous vous souvenez peut-être de ces débats, s'il ne fallait pas l'accès de l'analysant à l'orgasme pour qu'une analyse soit dite accomplie. C'est quand même des débats qui ont eu lieu. Lacan a mis fin à ces sottises, je crois. Voyez, dans cette même page 11, il affirme que cette jouissance est possible, mais pas nécessaire ni même suffisante. Alors c'est un problème clinique, mais c'est aussi un problème théorique qu'il faut résoudre pour éclairer le problème clinique. Le problème a été soulevé par Lacan avant encore. Je marque le parcours rapidement. Il y a problème parce que le langage ne laisse au parlant que la jouissance des pulsions dites partielles que Freud a découvert chez l'enfant, mais qui est pour tous. Or, cette jouissance-là, des pulsions, ne conduit pas spécialement vers le corps de l'autre. Je l'ai dit, elle se satisfait sans avoir à passer par le sexe. Elle est la réalité de l'inconscient, dit Lacan, la jouissance des pulsions. Mais il ajoutait « vérité insoutenable ». Je me suis longtemps demandé pourquoi insoutenable. Mais tout simplement parce qu'elle ne vise pas le partenaire, la jouissance pulsionnelle. Au contraire, dans l'activité pulsionnelle, je cite Lacan, « chacun se vise au cœur et n'y atteint que d'un dire qui le rate ». Note italienne. Et c'est pourquoi d'ailleurs chacun recommence. La question est donc posée depuis 64. Si dans la pulsion, l'être se vise lui-même, qu'est-ce qui permet de viser un autre partenaire, autrement dit, qui permet d'aller au lit? En fait, il y a deux questions. Qu'est-ce qui fait aller au lit, si ce n'est aucune pulsion génitale? Et qu'est-ce qui fait qu'au lit, la réponse de jouissance se produit ou se produit pas? Pour la première question, Lacan a déjà élaboré des réponses dans Encore, avant Encore, pardon, dans Position de l'inconscient. La thèse était que, outre les pulsions, il fallait une autre condition pour aller au lit, c'est-à-dire pour choisir un partenaire sexuel, hein, tout simplement. Une autre condition venue de l'autre, grand A, et spécifiquement la métaphore paternelle, position de l'inconscient. Dans l'étourdi, il reformule la même thèse un peu autrement. La réponse de l'étourdi dit que si l'autre du discours génère les pulsions, il ne commande à la sexualité, l'autre, que par son passage au signifiant majeur, le phallus. Phallus écrit avec une, sans majuscule, avec une minuscule. C'est donc le signifiant du manque. Donc la thèse, c'était que c'est par son manque que l'autre conduit un sujet vers un partenaire au lit. Thèse bien connue des lacaniens. Si Lacan y revient dans Encore, il a dit ça en 72, juillet 72, si Lacan y revient dans Encore, à ce problème de la dite génitalité, c'est évidemment que sa réponse de juillet 72 ne lui paraissait pas suffisante, ou pas suffisamment explicitée peut-être. Alors je reviens à ma phrase. Quand il dit « le corps de l'autre », il est sûr que c'est le corps de l'autre sexe. La phrase ne le dit pas, mais c'est sûr, et même précisément, c'est le corps d'une femme pour un homme. La question porte sur le couple hétérosexuel du point de vue masculin. Ce n'est pas dit, mais ce qui vient après ne laisse aucun doute, puisque L'expression « jouissance du corps de l'autre » en elle-même est équivoque, à cause du « de ». ça pourrait désigner aussi bien le jouir de ce corps de l'autre comme objet, au sens objectif, ou au sens subjectif du « de », la jouissance qui vient à ce corps. Mais ce qui suit réduit l'équivoque. Je déplie ce qui suit, Lacan dit, en gros, si l'amour n'est pas la cause de la jouissance, il demande d'où part ce qui est capable de répondre par la jouissance. Et il précise alors, ça ne vient pas des caractères sexuels de la femme, ni de son sexe qui ne dit rien à l'homme. Donc ça ne vient pas de l'être sexué. C'est donc clair. Lacan a dit qu'il nous prenait au lit, mais au lit, il met un homme et une femme, un couple hétéro, pas un couple homo. Question en suspens. Et sa question, donc, porte sur ce qui répond côté jouissance masculine. Alors, d'où vient cette jouissance si elle ne vient ni de l'amour, ni de l'être sexué du corps, c'est-à-dire ni du sujet, puisque quand on parle d'amour, c'est un phénomène du sujet, ni de l'organisme sexué. La phrase de l'étourdi permettait de saisir ce qui mène au lit, plus que l'événement de jouissance possible. Elle disait que la condition, c'était le manque dans l'autre, dont le signifiant est le phallus. Mais ça ne disait rien sur sa jouissance une fois au lit. Et c'est la question à laquelle Lacan s'attaque dans cette leçon. Alors, est-ce que la phrase si courte que je dois commenter nous donne une indication pour y répondre? Je me tourne vers la partie médiane de la phrase. L'autre grand A, jouir de l'autre, grand A, du corps de l'autre qui le symbolise. Qui symbolise qui? L'autre. Il y a donc deux autres dans cette phrase. Il y a le corps de l'autre, sexe, corps de la femme, qui symbolise cet autre autre, qui est l'autre lieu du discours. Première question. Un corps qui symbolise l'autre, est-ce la même chose que le corps lieu de l'autre, que Lacan a posé dès Radiophonie? Non, je crois que non. Le corps lieu de l'autre, Lacan l'a clairement défini, enfin clairement, aussi clairement que Lacan est clair, hein. Il l'a clairement défini, le corps lieu de l'autre, c'est le corps lieu de la métonymie, de la jouissance pulsionnelle. Un corps donc dont on peut jouir et qui jouit sans aller au lit. Le voyeurisme par exemple en est la preuve. Lacan, lui, prend l'exemple du baratineur, bel ami. Autre exemple, il y en aurait plein d'autres. Alors, de quoi jouit-il l'homme? Serait-ce de cet autre symbolisé par le corps de la femme, à savoir l'autre lieu du discours? La réponse n'est pas explicitée dans la phrase que je commente. Mais elle commence à l'être, elle commence seulement à l'être, deux pages plus loin. Quand Lacan dit, en fait, il ne parvient pas à jouir du corps de la femme. Il avait dit jouir du corps de l'autre, et il dit, il ne parvient pas à jouir du corps de la femme en raison de la jouissance phallique. La jouissance phallique, elle est hors corps, hétéro, au sens qu'elle n'est pas auto-érotique, car par définition, la jouissance phallique est les jouissances du langage. Et c'est elle qui permet de jouir de l'organe. C'est ce que Lacan développe un peu plus loin. Alors, donc la thèse est celle-ci. Le corps de la femme symbolise l'autre, mais c'est de cet autre que part la jouissance de l'homme. Et pas du corps de la femme. C'est la thèse qui se trouve dans cette phrase et dans un peu ce qui suit. Et c'est pourquoi Lacan, juste avant, avait parlé des rêves que l'on a sur ce lit. Les rêves, c'est le lieu de l'autre. Hein. On est avec cette phrase, donc, sur la piste Ah, c'est parfait. On est avec cette phrase sur la piste de la thèse que Lacan va formuler plus tard dans RSI. Vous jouissez de votre inconscient. Vous connaissez ? Et il l'ajoutait même au lit. Même au lit. L'inconscient, c'est un nom de l'autre. Alors, il y a quelques questions que je pose à cette phrase, que Lacan ne pose pas, que moi je pose à cette phrase. À quelles conditions un corps peut-il symboliser l'autre ? Le symboliser assez pour que par son intermédiaire, il y ait réponse de la jouissance phallique de l'homme, qui est jouissance du signifiant. Y faut-il un corps de femme ? C'est une question. Il semble bien que dans ses élaborations préalables, bien avant encore, en 58, Lacan aurait répondu oui, il faut un corps de femme. Souvenez-vous, parlant de la femme, il dit « c'est l'absence de pénis qui l'a fait phallus ». Avec ça, évidemment, comment situerait-on l'homosexualité masculine ? Mais heureusement, dès ses textes de 58, Lacan expliquait comment un corps qui n'est pas de femme, un corps qui a un pénis réel quand c'est un partenaire homme, et même postiche quand c'est une femme, n'excluait pas que ce corps symbolise l'autre. Donc avec la thèse, le corps de l'autre, le partenaire symbolise l'autre du discours, Lacan parlait de la femme, mais on n'aurait pas de mal à y intégrer l'homosexualité en s'appuyant sur ces considérations préalables de Lacan. Il y aurait une autre question que je vais peut-être juste énoncer. Si le phallus est la condition, si le passage de l'autre au signifiant phallique du manque est la condition pour qu'il y ait un partenaire, pour qu'il n'y ait pas seulement la jouissance pulsionnelle, mais un partenaire sexuel. Et si ce signifiant phallique sans majuscule est l'effet de la métaphore paternelle, voyez où ça nous mènerait. Voyez où ça nous mènerait. Ça nous mènerait à conclure beaucoup de choses. Ça nous mènerait à conclure que la métaphore paternelle est la condition de la sexualité, au sens du rapport à un autre corps. Alors, je laisse cette question en suspens, mais je crois qu'elle se pose. Eh bien, voilà. Donc, il y avait donc bien deux thèses. Hein. Il y avait la thèse que la jouissance du corps de l'autre n'est pas le signe de l'amour. Il y avait la thèse que le corps du partenaire symbolise l'autre. Et puis la troisième thèse, qui vient un peu après cette phrase, c'est que la jouissance ne vient pas du corps de l'autre. Elle vient, ou elle vient du corps de l'autre, l'autre autre, l'autre du discours, l'autre du symbolique. Voilà, j'ai terminé. Alors je vais passer, vous voyez, oh, je suis contente de moi, 20 minutes pile. Alors... Bon, à vous.
Je vais tâcher de faire aussi bien alors. Comment passe-t-on du ravalement freudien, puisque mon titre c'est du ravalement de l'amour à l'amour plus digne, au faire l'amour plus digne lacanien. L'amour chez Freud. Pour Freud, il y a des conditions qui déterminent l'amour pour l'homme en général. Il en déplie quatre. Le tiers lésé, où l'homme aime une femme déjà prise par un autre. Il s'agit là de la chiper à un autre afin de se l'approprier. d'où une exacerbation des sentiments liés à cette rivalité dont l'origine est à chercher dans l'infantile, le père étant le tiers lésé et la mère l'objet inestimable. La deuxième condition s'ajoute à la première. La femme doit être de mauvaise réputation, contre-pied de la figure maternelle. La femme chaste et insoupçonnable n'intéresse pas. Freud évoque la passion pour la putain faisant éprouver des sensations intenses, la jalousie étant dirigée vers les hommes étrangers à l'affaire. La troisième condition est que plus la femme est rabaissée socialement et plus elle acquiert de la valeur comme objet d'amour. À celle-ci s'ajoute une quatrième condition, il s'agit de sauver, et c'est une tendance manifeste, la femme aimée. Elle a besoin de lui et il s'attache à ses pas. Les origines de ces conditions et choix sont à chercher du côté de l'Œdipe, des fixations liées à cette période de l'enfance et notamment à la mère, avec le passage par le complexe de castration où le garçon repère la menace imaginaire pesant sur son organe et la petite fille lésée de n'en avoir pas, l'attend sous la forme d'un enfant. Pour ou contre les figures parentales, voilà pour Freud la position du sujet quant à son choix d'objet d'amour. Freud développe ensuite la question de l'impuissance psychique, mépris pour la femme chez l'homme et frigidité chez la femme, inhibition ou hostilité envers l'homme, et avec elle, ce qu'il en serait du développement normal de l'amour. Il en donne cette définition, deux courants doivent se conjoindre, le courant tendre et le courant sensuel, amour et sexualité fusionnant. Je le cite, « Pour être dans la vie amoureuse vraiment libre et par là heureux, il faut avoir surmonté le respect pour la femme et s'être familiarisé avec la représentation de l'inceste avec la mère ou la sœur. Mais la plupart du temps, nous dit Freud, en cette affaire, c'est plutôt raté et pour tout le monde. En effet, la vie amoureuse est clivée selon deux directions. Là où ils aiment, ils ne désirent pas et là où ils désirent, ils ne peuvent aimer. Pour lui, seul le désir et l'amour liés permettent une sexualité épanouie. Le désir entraîne la réussite de l'activité sexuelle et par là même une jouissance sexuelle satisfaisante. Sinon, c'est le rabaissement de l'objet sexuel et la surestimation de l'objet d'amour, qui est un objet incestueux. La sexualité n'est possible qu'avec un objet rabaissé. Freud lit la sexualité, le sexuel donc à l'amour, le facteur psychique. Ça doit s'accorder, concorder. Chez tous les hommes, on retrouve la présence de ces facteurs causaux. Importante fixation infantile, protection contre l'inceste, frustration à l'adolescence. L'homme civilisé se caractérise par une certaine anesthésie psychique que l'on retrouve chez la femme sous la forme de la frigidité au sens large. Même si chez elle, on ne trouve pas nécessité d'un objet sexuel rabaissé, il faut qu'il y ait un interdit pour que ce soit possible. En cause de cette non-confluence d'émotions tendres et sensuelles, la domestication de la vie amoureuse par la civilisation, avec pour conséquence le ravalement des objets sexuels et donc de la vie amoureuse, il a alors fallu, pour la rendre possible, que l'homme s'invente des conventions, c'est-à-dire des obstacles à surmonter, afin qu'il y ait quelque résistance à la satisfaction. Les obstacles étant ce qui pousse l'homme à se satisfaire. À ce moment précis de son texte, Freud fait une révélation qui me semble importante en regard de ce que dit Lacan. Je veux parler de l'objet A. Il affirme, je le cite, « Je crois que l'on devrait envisager la possibilité que quelque chose dans la nature même de la pulsion sexuelle ne soit pas favorable à la pleine satisfaction. » Il fait à la suite référence à la perte du refoulement de l'objet originaire d'une motion de désir dont les substituts seront toujours inadéquates pour la satisfaction pleine et entière. Il y a donc une perte et un reste. De fait, le petit homme commence deux fois sa vie sexuelle, d'abord autour de son attachement à sa mère et de l'intérêt qu'il porte à son corps, ensuite au moment de la maturité sexuelle. Et cette constitution humaine aboutit pour Freud à des changements d'objets susceptibles de ratage, qui sont dépendants dans le choix du sujet de sa relation avec ses pères et mères. Il dit d'ailleurs cette phrase « L'homme quittera père et mère et suivra sa femme ». mais c'est aussi l'incompatibilité de la civilisation et de l'éducation avec les revendications sexuelles qui est la cause du ratage de la vie sexuelle de l'individu, empêchant son plaisir complet, la pleine satisfaction. Mais cette incompatibilité, dit-il, est aussi source de réalisation. On le voit, Freud oscille entre la structure et la civilisation. Pour lui, seul compte, me semble-t-il, la réussite de l'acte sexuel, possible si amour et désir sont noués. Il ne dit pas, du moins dans ces textes-là, comment cela s'organise pour chacun des partenaires, non plus que ce qu'il en est de la jouissance de chacun. On ne trouve quasiment pas ce terme sur la plume de Freud. Je vais partir de la lettre aux Italiens de 1974, m'appuyer également sur le séminaire Oupir et sur les entretiens de Sainte-Anne, le savoir du psychanalyste de l'année précédente encore, et tâcher de déplier ce qu'il en est de l'amour pour Lacan. Je vous livre tout d'abord la citation de la lettre in extenso, la lettre aux Italiens, d'où est parti le « faire l'amour plus digne ». On ne peut l'entendre, Lacan parle du savoir de l'inconscient, que sous bénéfice de cet inventaire, soit de laisser en suspens l'imagination qui y est courte, et de mettre à contribution le symbolique et le réel qu'ici l'imaginaire noue, c'est pourquoi on ne peut le laisser tomber, et de tenter à partir d'eux, qui tout de même ont fait leur preuve dans le savoir, d'agrandir les ressources grâce à quoi ce fâcheux rapport, on parviendrait à s'en passer pour faire l'amour plus digne que le foisonnement de bavardage qu'il constitue à ce jour. Sicut Palea, disait le saint Thomas, en terminant sa vie de moine, trouvez-moi un analyste de cette taille qui brancherait le truc sur autre chose que sur un organon ébauché. Lacan demande aux analystes de ne pas se fourvoyer dans ce qui concerne les affaires de l'amour, du côté du sexuel, de ne pas s'en mêler, de ne pas en faire un guide, une méthode, car ça n'est pas possible. Rien ne peut s'en écrire. Il me semble qu'à la différence de Freud, il disjoint l'amour du sexuel. Déjà, vous entendez l'équivoque porté sur le faire l'amour qui convoque à la fois l'acte sexuel et faire de l'amour quelque chose de digne, c'est-à-dire comme il convient, quelque chose de décent. Au fond, en faire quelque chose de respectable, d'estimable. Le sujet humain bavarde beaucoup quant à ses difficultés avec l'amour et avec le sexe. Ça le tracasse. Fâcheux rapport, dit Lacan, de quoi est-il question ? Il n'y a pas de rapport sexuel, le fâcheux portant sur le n'y a pas. Le terme fâcheux est lui aussi équivoque. Il contient fâché, qui met en colère, qui suscite le conflit, la polémique, le désaccord, la fâcherie et la brouille. Le fâcheux voulant dire des choses pénibles à accomplir ou à supporter. Le malencontreux également. C'est une pomme de discorde. Que veut dire Lacan quand il dit parvenir à s'en passer ? Je crois que cela signifie, pour le sujet, de reconnaître la part de réel qu'il contient. Il est un exilé du rapport sexuel, car il est impossible d'écrire ce rapport, c'est-à-dire d'unifier un sexe et l'autre, de faire un. Il n'y a pas de rapport qui puisse se mettre en écriture. Inutile, à partir de là, d'essayer, dit-il plus haut dans le texte. Pourquoi ? Le symbolique y manque, pas de signifiant qui dit le sexe. Homme ou femme, c'est d'abord aux parents de l'énoncer et à l'enfant de le subjectiver comme il le peut. Il ne dit pas non plus ce qu'est la jouissance sexuelle, parce qu'il y a l'objet A que Lacan a construit. Je le cite. « Je suppose qu'on en connaît les quatre substances épisodiques, qu'on sait à quoi il sert de s'envelopper de la pulsion, par quoi chacun se vise au cœur et n'y atteint que d'un tir qui le rate. » L'objet A est inatteignable et irreprésentable, mais représenté. Il crée le manque et de fait est ce qui pousse. Pardon, excusez-moi, est ce qui pousse
le désir.
Le désir. Je regarde la montre, je suis humiliée.
Tranquille.
Ce sera toujours d'autre chose qu'il s'agira. Il y a inadéquation entre ce qui est demandé et ce qui est obtenu. Ça rate toujours. Le cœur du sujet est de structure divisée dès son entrée dans le symbolique, c'est-à-dire dans la parole, par la perte de cet objet. Alors de quoi s'agit-il dans l'amour ? Non de retrouver sa moitié, de faire un, mais de reconnaître cette boiterie originelle, et l'impossible de faire un dans le rapport sexuel, car il n'y a pas de savoir du rapport sexuel. Savoir qu'il n'y a pas de savoir possible, donc. Alors, l'amour plus digne. Déplions un peu plus ce qu'il en est de la jouissance sexuelle. Lacan parle du champ de la jouissance comme de ce qui a trait à tout ce qui affecte le corps. Elle est le rapport de l'être parlant avec son corps. Elle ne peut être absolue puisqu'au cœur du sujet, un vide central où se loge l'objet A, conséquence du refoulement originaire. Un vide qu'il appelle dasding et autour de quoi les bords pulsionnels s'organise la jouissance. Comme il n'y a pas de signifiant de la jouissance sexuelle et donc impossibilité du rapport sexuel, la jouissance phallique vient y suppléer. Le phallus qui la symbolise étant ce autour de quoi l'être de l'homme et l'être de la femme s'ordonnent. Elle est ce qui humanise car elle est de parole, intriquée dans le langage. C'est le signifiant qui la cause. Elle a en son cœur un manque qui nous en exile et dans le même temps nous exile de l'autre. Avec le phallus, entre en jeu la castration, non pas de l'organe bien entendu, mais de l'image. La castration révèle que l'objet est définitivement perdu. Il s'agit d'une opération symbolique, élevant le phallus au rang de signifiant. Et par là même, il n'est plus dans le corps, il en est séparé. Objet que ni l'un ni l'autre sexe ne possède, mais qui va dorénavant régler leur modalité de jouissance. Ni avoir, ni être le phallus, c'est à cela qu'il s'agit de renoncer pour les deux sexes et de se placer dans une position distincte par rapport à lui. La psychanalyse nous montre qu'il est impossible de définir ce qu'il en est de l'homme et de la femme, dit Lacan. Et il ajoute, rien n'indique spécialement que ce soit vers le partenaire de l'autre sexe que doivent se diriger la jouissance. La sexualité est un manque et au centre de tout ce qui se passe dans l'inconscient, dit-il encore. Cette jouissance ne peut s'articuler qu'à rencontrer la castration. Alors seulement peut s'obtenir l'accouplement. L'amour pourrait se dire ainsi, je te demande de refuser ce que je t'offre parce que c'est pas ça, dit Lacan dans Au pire, toute relation amoureuse se heurte à un impossible représenté par la castration et l'objet A. Nier le pas de rapport sexuel amène au pire. Le c'est pas ça concerne l'objet A, celui après lequel le sujet court en vain, car il est inatteignable. Il est inatteignable, donc ce n'est jamais ça, jamais le bon, celui qui complétera son manque. Donc je ne peux te l'offrir, ni te le donner, puisque je ne l'ai pas non plus. Le renoncement à obtenir ce quelque chose de l'autre mettra un frein à cette course vaine. Et avec l'acceptation de cet impossible de faire un, il y aura sans doute place pour l'amour digne. L'amour, c'est demi-dire qui ne se recouvre pas. C'est la division irrémédiable, c'est la connexité entre deux savoirs en tant qu'ils sont irrémédiablement distincts, dit Lacan dans Les noms du R. Chaque sujet n'ayant affaire qu'à ce nœud qui constitue son être, le lien d'amour se situe entre ces deux savoirs inconscients. Quelque chose de soi résonne en l'autre et réciproquement. C'est bon.
Moins d'une minute. Vous aviez encore une minute. Merci, je sais. Bon.
Bon, moi, je ne suis pas un sprinteur. Hein. Je ne suis pas un sprinteur.
Allez, pas de course.
Bon, le risque avec une annonce comme je l'ai faite serait de me décaler, de me démarquer ou de me décentrer du contexte théorique dans lequel se situe la séance de séminaire de ce soir. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est situer la thématique que j'ai retenue en faisant le lien avec le passage du séminaire retenu pour ce soir. Dans un deuxième temps, j'évoquerai un cas clinique que j'ai trouvé dans la littérature psychanalytique pour enfin tirer les conclusions au regard du thème du séminaire. Je passerai donc par la clinique après avoir posé des jalons de doctrine. Mon point de départ est donc la phrase qui est commentée ce soir. Et ce qui sera au cœur de mon développement sera la question de la jouissance du corps de l'autre avec comme support, si j'ose dire, la question du masochisme. À ce niveau-là, je dois encore préciser des choses. Le corps, comme désert de jouissance, est la conséquence de la corpsification. L'autre que Lacan découvre comme étant d'abord l'autre du signifiant dans le texte d'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, ne peut être dit tel que de s'incorporer. Dans le texte Radiophonie, on trouve un terme pour désigner l'autre avant qu'il ne soit l'autre de s'incorporer. Ce terme, c'est ce que Lacan appelle le corps du symbolique. C'est une expression qui a une grande portée, puisque le symbolique n'a de corps que du fait que sa vocation est justement de s'incorporer. L'autre, c'est le symbolique incorporé. Que doit-on entendre par incorporation ? Lacan a préféré à ce terme d'incorporation celui de corpsification. Ce qui est au principe de la corpsification, c'est-à-dire ce qui est au principe de cette incorporation du symbolique, à partir de quoi nous sommes légitimés à parler de l'autre, c'est ce que Lacan appelle la négativation des chairs. En se séparant de la chair par la négativation de celle-ci, le corps se trouve disjoint de la jouissance. Il s'en trouve disjoint du même coup que la chair, elle, se trouve négativée. Cette corpsification est la jouissance du langage qui utilise et s'empare du corps. La jouissance de l'autre s'articule d'une part avec l'inexistence du rapport sexuel et de l'autre avec le corps auquel elle donne sa place dans la rencontre sexuelle. En ce qui concerne son rapport au corps, une distinction est à opérer entre la jouissance de l'autre corps ou de l'autre sexe ou du corps de l'autre sexe où il s'agit d'un corps autre que le corps propre et la jouissance de l'autre en tant que jouissance supplémentaire de la femme mais aussi des mystiques où il s'agit du corps propre et qui se nomme la jouissance autre. D'ailleurs, Lacan souligne l'ambiguïté du jouir du corps. Soit le génitif objectif, ce qui lui donne une note sadienne, soit le génitif subjectif, ce qui lui donne une note extatique subjective. Je vous renvoie à la page 26 du séminaire encore. Située à l'intersection du réel et de l'imaginaire, elle est hors symbolique. Hors langage. Ce hors langage, ce trou dans l'autre signifiant, c'est donc avec tout le corps réel, vivant sexué, qu'il métaphorise au plus vif. À ce corps-là, et là c'est un point important à mon avis, est attribuée une jouissance, et c'est toujours à la page 26 du séminaire encore, la substance du corps. Je cite Lacan, se définit seulement de ce qui se jouit. Propriété vivant, propriété du corps vivant, sans doute, mais nous ne savons pas ce que c'est d'être vivant, sinon seulement ceci, qu'un corps, cela se jouit. Fermez les guillemets. Cette jouissance associée à l'être comme vivant ne serait plus dans la dépendance de la fonction de la parole comme la jouissance phallique. Dans la première leçon du séminaire RSI, Lacan nomme cette jouissance « jouir de la vie », en précisant, je le cite, « le réel, c'est la vie que nous sommes amenés à y référer ». C'est dans la séance du 12 décembre 1974. La vie est un démon du trou du réel. Le symbolique, lui, mortifie, tue. L'imaginaire assure l'illusion, l'un s'assure de l'autre, l'autre avec un petit a, son alter ego narcissique. Alors la considération que je ferai ce soir de cette jouissance de l'autre sera réduite, si je puis dire, à la jouissance du corps de l'autre, pas du corps de l'autre sexe. Avec l'exemple d'un cas de masochisme pervers, je vais tenter de montrer comment ce pervers interroge ce qui peut en être de cette jouissance de l'autre, puisqu'à l'autre, comme dégagé de la castration, il croit. Et comment s'aviser par rapport à la jouissance et de rendre la jouissance au corps. Comme support clinique, j'ai choisi un exemple de masochiste pervers dont nous fait état Michel de Muzan dans son ouvrage « De l'art à l'amour ». Michel de Muzan est loin d'être un analyste orienté par l'enseignement de Lacan. Il appartient à l'Institut. On voit très bien que son travail est de tenter d'établir un profil à partir de considérations développementalistes. En ce sens, il s'inscrit tout à fait dans le droit fil de Pierre Marty, avec qui il a travaillé sur la question psychosomatique, et avec qui il a fondé en 1956 la pensée opératoire. Alors ce masochiste a accepté de rencontrer l'analyste pour raconter son histoire. Donc ce n'est pas une demande d'analyse. Il espérait, nous dit de Muzan, je cite de Muzan, là, quelque occasion d'être humilié. Et ce qui est intéressant encore d'observer, ce sont les effets du récit sur l'analyste. Les effets d'effroi, à tel point qu'à plusieurs reprises, de Muzan tente, dans ce qu'il écrit, de prouver l'exactitude du récit. La description des sévices est impressionnante. Et c'est avec sa femme qu'il se soumet à ces sévices extrêmes, au-delà de l'horreur, je dirais. Et cette femme a un double statut. Elle est à la fois, elle aussi, de son côté, dans des pratiques masochistes, mais aussi partenaire des pratiques de son mari. Elle décédera jeune, à l'âge de 23 ans, après 8 ans de mariage avec son époux. Et comme le fait de Muzan, on peut penser que la mort de cette femme a été accélérée par tous les sévices auxquels elle se soumettait. Dans sa présentation première, on pourrait penser que cet homme, ce sujet, est banal, commun. Il témoigne d'une excellente adaptation sociale, jouissant même d'une certaine admiration sur le plan professionnel. Et effectivement, il est aussi très adapté. La relation avec son épouse est plutôt bonne. Mais, je cite de Muzan, ouvrez les guillemets, le renoncement définitif au coït a été considéré par M, c'est le nom de cet homme, comme faisant partie intégrante des exigences masochistes. Survenu quelques années après la naissance de leur fille, ce renoncement définitif a été ordonné par un sadique, la femme de M ayant donné son accord, et sanctionné par la pose de l'anneau dont il a été question. Fermez les guillemets. À noter que cet homme a toujours refusé d'exercer une autorité ou d'avoir un poste de dirigeant. Son entourage proche, après le décès de son épouse, ignorait tout de ses pratiques masochistes, ce qui est un peu étonnant. Dans sa logique, il n'était absolument pour rien, entièrement soumis à la loi de la jouissance, cette loi de la jouissance qui oriente l'ensemble de sa vie, nous donne une idée de sa position subjective. Et je cite de Muzan, « quel contraste lorsque son corps est exposé. Fermez les guillemets. Tout l'effort du récit de ce sujet va être de démontrer comment la jouissance peut regagner le corps. C'est un point majeur. Sur ce point, je pense que de Musan Cigare, parce que c'est avec cette idée, à savoir la douleur poussée à l'extrême, que la jouissance peut s'atteindre. Et non viser l'angoisse de son partenaire. Et pourtant, il précisera que le sadique recule devant le caractère extrême de la demande. M, donc le sujet en question, lui aurait dit, je cite donc cet homme, « Au dernier moment, le sadique se dégonfle toujours. » Assurer la jouissance de l'autre. Lacan écrit à la page 825 des écrits, et le nom de la visée du fantasme pervers pour rendre compatible corps et jouissance. S'imaginer être l'autre, page 824, soit s'identifier de façon massive au manque dans l'autre, à sa castration, afin, aussitôt, d'y suppléer en le bouchant, tel sera le moyen pratique du pervers pour assurer cette jouissance. Lacan dit qu'il s'en fait l'instrument. Et toujours dans la logique de son fantasme, pour réaliser cette visée, le sujet pervers se fait l'objet, c'est-à-dire se réduit à cette perte, petit a, du jeu signifiant, là où s'est réfugiée la jouissance. Le masochiste, en se faisant le petit a, vise la jouissance de l'autre, mais en fait, ce qui est caché, qu'il nie, ce qu'il vise, c'est l'angoisse de l'autre. Le fait d'être rejeté pour le masochiste est un alibi. Il se livre à une identification au plus extrême des déchets, et par une telle identification, il tente de s'annuler, lui, comme sujet, comme effet du signifiant, et, à ce titre, toujours divisé. Il rejette sur l'autre sa douleur d'exister. Écrit, page 778. C'est-à-dire ce qui résulte nécessairement de son manque à être. Le contrat qu'il établit avec son partenaire est une garantie pour le bénéfice de la jouissance, jouissance qui repose sur une manœuvre de l'autre. Le masochiste est un expert dans le recyclage de la jouissance qu'il soutire à l'autre en se faisant l'objet d'une jouissance autre qui est sa propre volonté de jouissance. À la complicité de l'autre, celle du partenaire démontre aussi pour le masochiste, et ce d'une manière irréfutable, le propre de la jouissance de l'autre, un autre qui lui a aussi cédé, qui a lui aussi cédé à la loi du désir. En faisant de son partenaire l'agent de la volonté de jouissance de l'autre, il se défausse sur lui d'assurer son désir, tout en excluant de se retrouver dans la même position que le partenaire qu'il voudrait s'il était sadique. Le savoir-faire du masochiste tente de dominer la volonté de jouissance de l'autre en s'identifiant à ce qui peut lui manquer. Alors, l'objectif pour le masochiste est de sauvegarder une relation à la jouissance qui soit indépendante de l'autre sexe comme tel, une jouissance séparée du corps féminin, une jouissance imaginaire. On peut ajouter à cela que c'est dans cette prise de position qu'il essaie d'atteindre la vérité de son être, il essaie de s'atteindre lui-même. Or, la vérité d'une chose se manifeste dans la présence de ses restes. C'est sur le lieu du déchet que le masochiste est présent. Le masochiste cherche dans l'autre la réponse à cette chute qui marque l'essence même du sujet barré par cette dernière misère qu'est l'angoisse. La vérité du masochiste, comme Lacan nous l'indique, nous la trouvons dans ses pratiques. Le corps est mis à mal, instrumenté pour que la jouissance regagne le corps. Cela n'est possible que par l'utilisation de l'autre, par la mise en scène, la démonstration, un jeu de guignol et de savoir-faire. Dans le séminaire encore, Lacan reconnaît au pervers un savoir-faire lié au savoir de la nature des choses, et il trouve que le savoir-faire ne va pas très loin. Ces repères théoriques permettent de saisir la logique perverse dans sa visée. Cette visée du pervers précise parfaitement l'articulation corps signifiant et jouissance. Dans son texte de télévision, en 1974, Lacan écrit « Si l'homme veut la femme, il ne l'atteint qu'à échouer dans le champ de la perversion. » Déjà, en 1967, dans le séminaire « La logique du fantasme », il disait « Se poser la question de la jouissance féminine, c'est ouvrir la porte de tous les actes pervers. » Ce qu'il questionne et qu'il traque, ce n'est pas comment il pourrait jouir de l'autre, mais comment et de quoi jouit le corps de l'autre. Cette jouissance, c'est sa supposition atteignant une intensité dont il est radicalement séparé. C'est-à-dire que pour lui, la jouissance la plus vive doit découler de la position d'être joui, dans une position féminine, plutôt que celle de jouir, une position mâle. Et pour cause, puisque du côté homme ne peut être atteint que l'objet petit a, soit la jouissance est chiffrée par le fantasme. Pour atteindre cette jouissance voulue toute restituée au corps, et donc voulue dégager de la logique signifiante phallique, le sujet pervers tente de faire exister la femme en opérant cette tentative d'ôter la barre sur le là de la femme, de la faire toute libérée de la fonction phallique, assurant ainsi la conjonction, sans perte, du corps et de la jouissance. Le pervers ne traque nullement le patou de la jouissance féminine au sens proposé dans le corps. Au contraire, il est fantasmatiquement pris dans une logique du tout. Il dément le patou en affirmant que l'autre, comme tout, il y a, et donc que sa jouissance est toute saisissable. Il vise la jouissance de la femme plutôt que la jouissance de la barrée femme. Pour provisoirement conclure, je serai dans le temps. Jouissance, amour et satisfaction, tel est le titre du séminaire. Alors, comment tout cela, tout ce que j'ai essayé d'illustrer ce soir, a rapport avec le séminaire ? Eh oui. Ce que nous apprend la psychanalyse, c'est que c'est dans le symptôme, ou pour utiliser une expression de Lacan, c'est dans la jouissance que la vérité trouve à résister au savoir. Et c'est cette vérité du savoir, soit cette vérité du symptôme, que Lacan appelle satisfaction. Il appelle satisfaction en tant qu'elle met un terme au mirage d'une vérité qui ne pourrait se dire toute que si le savoir pouvait identifier la vérité sans reste, ce qui n'est pas le cas. Puis en prenant cette question de la satisfaction à partir du lien que j'établis entre satisfaction et vérité via le désert de la jouissance, on peut se demander comment la vérité peut être à la fois satisfaction, tout en étant satisfaction de ce qu'elle s'exile au désert de la jouissance, c'est-à-dire du côté du corps corpsifié, puisque un symptôme est toujours un événement de corps, soit quelque chose qui a à voir avec le corps corpsifié. L'exemple du masochisme, qui est aussi l'exemple choisi par Lacan, permet de poser et de répondre à la question suivante. Puisqu'il n'y a pas de satisfaction sans jouissance, comment peut-il y avoir satisfaction alors que la satisfaction est d'un côté, côté corps corpsifié, et que la jouissance est de l'autre? Pour le masochiste, la réponse est celle de rendre la jouissance au corps. Mais en fait, ce qu'il obtient, c'est que cette jouissance rappelée au corps n'est que simulation de jouissance et que le corps reste bel et bien désert de jouissance. Lacan a plusieurs fois évoqué le cas de sa chère Mazoc et de sa femme Vanda et du contrat passé avec elle. L'exemple que j'ai choisi ce soir, évoqué dans ce texte de 1972 par Michel de Muzan, nous montre jusqu'à quel point cette simulation de jouissance peut être portée, jusqu'au moment où la jouissance regagnerait le corps, ou qu'elle viendrait recouvrir ce désir de jouissance. Pour terminer, dans l'attelage que j'ai établi ce soir entre le cas de ce masochiste pervers et le ternaire de l'intitulé du séminaire, l'amour n'a pas trouvé à se loger. J'ai été incomplet, une fois encore. Merci.